France Inter.
Merci beaucoup Alexandra Duboucheron. Bien sûr, vous êtes de retour parmi nous d'ici une heure pour un nouveau point sur l'information. Alors, avant que ce programme commence, maintenant que je vous tiens, demain, c'est-à-dire vendredi 21 mars à 19h, mais les portes seront ouvertes dès 18h15, nous accueillerons le public au Studio 104 pour une émission spéciale. Nous écouterons en effet ensemble, dans son intégralité et dans l'ordre, et dans des conditions optimales, je le souligne, l'album de Nirvana, Unplugged in New York, un concert, hein, beaucoup le savent, qui a été diffusé par la chaîne MTV à la fin de l'année 1993 et publié en CD l'année suivante, hein, il y a plus de 30 ans déjà, juste quelques mois après le suicide de Kurt Cobain. Vous pouvez vous inscrire sur le site maisondelaradio.fr, maison de la radio en attaché, pour y assister. Alors, mon rôle là-dedans, ça sera d'éclairer le contexte, les chansons, tout ça. Alors, c'est important, il y aura une deuxième heure où ce sera vous, dans le public, qui interviendrez. Alors, si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de témoigner sur la façon dont vous avez découvert la musique de Nirvana, ce que vous en avez gardé, enfin, tout ce que vous voulez. Si vous avez envie d'intervenir, c'est pas trop tard. Vous pouvez bien sûr nous envoyer encore un email à l'adresse suivante, donc que je rappelle, verygoodtrip1000, tout attaché, 1000 comme le chiffre, donc verygoodtrip1000@gmail.com. Voilà, vous savez tout. Ce soir, suite et fin du voyage dans l'espace qu'on a entamé avant-hier en compagnie de Stephen Wilson, ce soir, on retrouve notre héros cosmique pour un résumé de ses aventures en solo, un décollage tout en douceur. C'est parti.
You could be wise spending a lifetime under your tree watching apples fall from above. You could be lost aimless in your hometown. Nothing in that moment matters more than the book in your hand. And I see impressions and I see fingerprints, footsteps, tears in the rain. But nothing is more perfect than the smell of harmony.
Footsteps, tears in the rain. But nothing is more perfect than the smell of harmony.
Thank you.
The Old Peace, l'ancienne paix, sans doute pas un des titres les plus connus qui est signé Stephen Wilson. Je tenais néanmoins à commencer ce programme par cette chanson qui est parue il y a une dizaine d'années parce qu'elle en dit beaucoup sur la personnalité du musicien auquel je consacre intégralement le Very Good Trip de ce soir, le dernier de la semaine. Et ça en dit long aussi sur la communauté de ceux qui l'écoutent. Je m'explique. Peut-être avez-vous été à l'écoute donc du programme de mardi soir au cours duquel j'ai diffusé l'intégralité, hein, c'est rare, du tout nouvel album que signe donc ce musicien anglais Stephen Wilson, un album intitulé The Overview. Alors il se trouve qu'un jeune anglais, il y a de ça une quinzaine d'années, un jeune anglais du nom de Alec Widley, consacrait une bonne partie de son temps, c'était de sa part même une forme de bénévolat, à s'occuper de la promotion des concerts de Stephen Wilson ainsi que d'autres artistes situés dans la même mouvance, celle de la musique dite progressive. Il ne ratait aucun des concerts de Stephen Wilson, même de son groupe Porcupine Tree. Il était aussi un grand admirateur d'un chanteur et bassiste polonais, Mariusz Duda, très aimé dans cette communauté. Il avait fondé Duda à Varsovie, il y a de ça pas mal d'années, un groupe qui s'appelle Riverside, et puis il a aussi publié des albums très réussis entre folk et musique progressive sous le nom de Lunatic Soul. Alec Widley donc animait cette communauté, et puis comme il aimait bien écrire, eh bien, il consacrait des textes à ses musiciens préférés et parallèlement écrivait des poèmes qu'il publiait à compte d'auteur. Tristement, Alec a succombé il y a une dizaine d'années à un cancer du foie qui s'est développé d'une manière fulgurante. Alors bouleversé, comme vous pouvez l'imaginer, Stephen Wilson et Mariusz Duda ont alors décidé, pour lui exprimer leur gratitude, de s'associer afin de mettre en musique un de ses poèmes. C'est ce qu'on vient d'entendre, donc « The Old Peace ». Alors les deux auteurs viennent de publier une version dite remasterisée de cette chanson. Alors vous avez peut-être remarqué ça si vous avez une oreille aguerrie, ce dont je ne doute pas. Wilson et Duda ont recouru dans cette chanson à des sons délibérément désuets d'un instrument qu'on appelle le mélotron, l'ancêtre du sampler. Le mélotron, oui, un instrument qui, au moyen de bandes magnétiques, créait des approximations de flûte à bec ou d'harmonium, c'est ce qu'on entendait le plus souvent. Alors je ne sais pas si c'est un véritable mélotron qu'on a entendu ou bien une imitation électronique, aujourd'hui on est complètement largué, tout est tellement possible. En tout cas, historiquement, les sons de mélotron que tout le monde connaît, c'est par exemple dans la chanson Nights in White Satin des Moody Blues ou encore dans l'intro de Strawberry Fields Forever des Beatles que tout le monde connaît. Et ces sonorités très particulières de mélotron étaient très présentes dans les productions qui ont marqué donc les débuts de cette musique dite progressive à l'ambition nouvelle, je vous en ai longuement parlé mardi soir. Donc ce soir on va s'intéresser au parcours spécifique de Stephen Wilson indépendamment de son groupe Porcupine Tree. Alors je rappelle en deux mots que ce musicien anglais a fondé à la fin des années 80 d'une façon qui pouvait sembler à certains parfaitement anachronique, dont moi d'ailleurs je le confesse, un groupe du nom de Porcupine Tree. Oui, un groupe complètement à contre-courant, inspiré par les grandes heures de la musique dite progressive qui, il faut le rappeler, passionnait une bonne partie du jeune public du rock. À l'époque, on disait encore pop music entre les années 1970 et 1974, pour être approximatif. Porcupine Tree, en effet, alors à une époque bien plus tardive, a fédéré un public de plus en plus important, extrêmement fidèle au cours des années 90, particulièrement d'ailleurs en France, où la communauté des admirateurs de Porcupine Tree est vraiment très importante. Alors, avec Porcupine Tree, vous aviez, alors je le dis avec un sourire, mais enfin sans moquerie, vous aviez un peu trois groupes pour le prix d'un. Vous aviez le Pink Floyd de la période classique, le King Crimson tendance metal et le Genesis première manière, le Genesis post-psychédélique qui présentait dans sa musique des collages aussi savants que baroques, le Genesis dans lequel chantait encore Peter Gabriel entre 70 et 74. Stephen Wilson a eu 20 ans à la fin des années 80, une période où le rock avait déjà d'une certaine façon vécu son histoire et même fait sa révolution avec les punks et vous le savez aussi bien que moi, d'autres musiques arrivaient arrivait avec force en ce temps-là, hip-hop, techno, house, etc. Et quant au rock, le rock, il continuait à vivre sous forme de retour, de micro-tendance et de culte. Alors, Steven Wilson avait connu un premier retour du hard rock au début des années 80. Il était admirateur de groupes comme Iron Maiden, qui ont marqué sa génération, qui était né à la fin des années 60. Et puis, il a dit lui-même que, d'une manière d'ailleurs très franche, que l'essentiel de ce qu'il a pu produire en tant que musicien, c'est voulu en grande partie un hommage à une certaine musique du passé. Cependant, en adoptant cette approche à une toute autre période, il en a livré une interprétation, je ne dirais pas simplifiée, mais une interprétation comme enfantine, émerveillée et absolument passionnée et très méticuleuse. Il a mêlé à cette approche aussi les sonorités influences de son temps, l'électropop notamment. Alors il y a chez lui un peu comme un enfant qui se raconte les aventures qu'il n'a pas vécues et qui cherche à les recréer comme dans une espèce de jeu magique. Alors ce soir, comme je vous disais, je souhaite mettre en lumière les enregistrements en solo de Steven Wilson parallèlement à ceux de son groupe Porcupine Tree, dont d'ailleurs l'activité s'est longuement interrompue après l'année 2009. Le titre que je vous propose, Significant Other, est tiré du premier album solo publié en 2008 par Steven Wilson et qui s'appelle en espagnol, je ne sais pas pourquoi, Insurgentes.
Through the day, only child. Very Good Trip sur France Inter. Mishka Assayas.
Quelque chose du groupe Coldplay dans cette chanson signée par Steven Wilson en 2011, Postcard, une chanson extraite de son album Grace for Drowning, le deuxième en solo qu'il ait publié. Un album dont le point saillant est une suite longue de plus de 20 minutes qui s'appelle Raider 2, une suite qui mêle musique classique, metal et jazz rock avec un solo échevelé de flûte traversière. C'est un peu comme à la grande époque du groupe Jethro Tull et de son chanteur flûtiste star, j'ai nommé Ian Anderson. Jethro Tull qui existe encore, hein, près de 60 ans après sa naissance, et qui vient d'ailleurs de publier un nouvel album, Curious Ruminant, son troisième de la décennie déjà. Un groupe, Jethro Tull, au sein duquel beaucoup l'ignorent, l'ignorent ou bien l'ont oublié, au sein duquel le guitariste de Black Sabbath, Tony Iommi, a fait ses débuts. Alors dans cet album solo de 2011, eh bien Steven Wilson a pu réaliser certains de ses fantasmes puisqu'il a obtenu la participation de musiciens dont le nom a pu le faire rêver dans sa jeunesse. Alors je peux nommer comme ça au hasard le guitariste Steve Hackett du premier Genesis, ou alors des collaborateurs américains du groupe King Crimson, le bassiste Tony Levin, le guitariste Trey Gunn et le batteur Pat Mastelotto. Alors il faut peut-être souligner ici que Steven Wilson passe une bonne partie de son temps de travail à mettre en valeur la musique des autres. Oui, depuis une bonne dizaine d'années, il crée de nouveaux mix de ses albums entre guillemets classiques préférés en s'appuyant bien sur les grands progrès techniques qui permettent aujourd'hui de restituer avec un relief jamais atteint le son des masters, c'est-à-dire des bandes matrices d'origine. Il fait ça à ses moments perdus en tournée grâce à des logiciels très développés qu'il a pu charger sur son ordinateur portable. C'est comme ça que Steven Wilson a réalisé, au cours, je sais pas, des 10, 15 dernières années, de nouveaux mix d'albums de King Crimson, Jethro Tull, justement, ou encore du groupe Yes, et puis un petit peu plus récemment, plus près de nous, XTC ou Tears for Fears. Alors je me suis amusé à comparer, comme ça, en écoutant au casque, sur une plateforme de streaming, le son des albums d'origine et celui que Steve Wilson a réalisé, donc ses nouveaux mix. Alors évidemment, c'est pas une méthode idéale, loin de là, mais enfin ça donne une idée. Et ben franchement, pour ce que j'en ai perçu, c'est très convaincant, puisque Steven Wilson a procédé comme le ferait un restaurateur de tableau, c'est-à-dire qu'il a fait vraiment un travail patient et méticuleux, avec beaucoup de légèreté, par petites touches, et qui n'altère en rien l'original, au contraire. Voici la chanson qui conclut l'album solo suivant que Steven Wilson a publié en 2013, qui s'appelle The Raven That Refused to Sing, le corbeau qui refusait de chanter, mais dans une version où les cordes véritables d'un orchestre classique se sont substituées à leur imitation synthétique.
Sister, I lost you when you were still a child, but I lead you now, and I lead out for my life. I'm afraid to wait. I'm afraid to just because I'm weak, you can steal my dreams, you can reach inside my head, you can put your soul there instead.
please come to me. Please stay with me. Please.
The Raven That Refused to Sing, un long titre signé Stephen Wilson, musicien anglais auquel je consacre ce soir une sorte de concert idéal. C'est la chanson qui conclut l'album du même nom, publié en 2013, mais sous une version un peu différente, avec un véritable orchestre symphonique au lieu des cordes synthétiques qu'on entendait dans l'original. Donc, pour cet album de 2013, Stephen Wilson a enrôlé comme collaborateur un nom qui dira peut-être quelque chose à certains d'entre vous, c'est le légendaire ingénieur du son Alan Parsons, bah oui, celui-là même qui a enregistré l'album The Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Et puis Alan Parsons, c'est également un musicien à part entière. Il y en a qui se rappellent peut-être son Alan Parsons Project, qui a connu un grand succès dans les années 70, dans un style qui pouvait évoquer un certain versant de Pink Floyd, je dirais le versant le plus plus pop de Pink Floyd. David Gilmour, le guitariste de Pink Floyd, c'est, beaucoup le savent, c'est clairement un des grands modèles et maîtres de Steven Wilson. Celui-ci s'en est clairement ouvert. Alors, les débuts dans la musique de Steven Wilson ont été assez étranges. En fait, tout est parti d'un canular. Et oui, au milieu des années 80, Steven Wilson est un peu ce qu'on appelle un geek. C'est le fils d'un ingénieur électronicien dont la famille est établie dans un coin tranquille. Hemel Hempstead, c'est une ville moyenne, plutôt verte, qui est située au nord de Londres. Et Steven, adolescent, bricole des bandes magnétiques et réalise de la musique avec un copain grâce à des synthétiseurs analogiques. Ils sont très influencés par le David Bowie de la période dite berlinoise, de la fin des années 70. C'est une musique qui l'obsède totalement. Bon, évidemment, c'est pas le seul à cette époque. Avec son autre copain, geek comme lui, Steven Wilson invente un groupe imaginaire qui aurait existé à l'époque psychédélique, c'est-à-dire à la fin des années 60, l'époque qui est justement celle de la naissance de Pink Floyd, et qui aurait été une sorte de groupe de folk cosmique, et dont le chanteur légendaire était surnommé The Porcupine Tree, l'arbre à porc-épic. Ce qui est tout à fait plausible vu les délires de la période. Hélas, alors dans l'histoire qu'ils inventent, ce jeune génie n'aurait pas pu malheureusement s'élancer vers la gloire. Pourquoi ? À cause d'une ténébreuse affaire qui l'aurait conduit en prison, lui et ses deux camarades, un certain Sir Tarquin Underspoon et Mr. Jelly. Voilà, ces deux comparses. Bref, Steven Wilson prétendait redresser une grande injustice de l'histoire du rock psychédélique, comme d'ailleurs il y en a eu, il y en a eu tant, donc c'était tout à fait plausible leur histoire. Et pour accréditer leur délire fantaisiste, eh bien Wilson et son camarade ont eu l'idée de réaliser des cassettes, bah oui, c'était la fin des années 80, des cassettes qui ont atterri chez des passionnés du genre qui soit n'y ont vu que du feu, soit, et ça me paraît peut-être un peu plus plausible, ont eu envie de diffuser le canular pour voir jusqu'où ça allait prendre. En tout cas, une petite maison de disques qui porte très bien son nom, Delirium, a décidé en 1992 de publier un double album qui reprenait le meilleur des cassettes attribuées à ce mystérieux The Porcupine Tree et ses camarades. Alors à ce moment-là, curieusement, c'est une autre réalisation de Steven Wilson qui s'est fait remarquer, puisque parallèlement à ce projet un peu délirant, Steven Wilson travaillait au sein d'un duo d'électropop très influencé donc par David Bowie, la période dont je vous parlais, un duo d'électropop du nom de No Man, No trait d'union Man, qui commençait sérieusement à accrocher. Et grâce à ce début de succès qu'il a obtenu avec une musique tout à fait différente, eh bien Steven Wilson a décidé de donner vraiment vie à Porcupine Tree, qui est devenu un groupe authentique, un groupe véritable pour le coup, auquel il a intégré un excellent joueur de clavier qui s'appelle Richard Barbieri. Ça vous dit peut-être quelque chose, enfin je dirais à certains d'entre vous, puisqu'il a été révélé au sein du groupe Japan, dont David Selveyan fut le chanteur. En somme, il existe, dès les débuts de Porcupine Tree, une rencontre entre le psychédélisme anglais, devenu adulte et sérieux dans sa forme de musique progressive, et l'électropop, sans oublier aussi la trance techno et hypnotique qui se répand en ce début des années 90. On va maintenant retrouver Steven Wilson en solo, et la chanson que je vous propose d'écouter a donné son nom à un album qui a paru en 2015 et qui s'appelle Hand Cannot Erase. Elle a quelque chose de facile, de pop, de même enfin, très mélodieux, c'est une facette de son talent, la mélodie d'ailleurs. Et alors pour mes oreilles en tout cas, c'est un drôle de croisement, c'est un peu comme si le Genesis pop du début des années 80 reprenait une chanson de R.E.M. Mais c'est Steven Wilson ce soir dans Very Good Trip sur France Inter. Back home, feeling une chanson signée par Steven Wilson, encore une, et qui s'appelle Harmony Korine. Bah oui, c'est le nom du cinéaste américain Harmony Korine, qui avait écrit très jeune en 1995, ça vous rappelle peut-être quelque chose, le script d'un film qui s'appelait Kids, qu'avait tourné Larry Clark, un film dans lequel on voyait des préadolescents new-yorkais, donc des années 90, livrés à eux-mêmes, expérimentant entre eux le sexe, l'alcool et les drogues. C'est un film qui avait fait beaucoup parler de lui. Cette chanson à l'ambiance sombre remonte à l'année 2008 et il flotte dessus une ambiance morose qui n'est pas sans rappeler un certain métal à la résonance gothique. Alors faire de Steven Wilson un pur passéiste en musique serait une grave erreur, puisque ce qu'on a appelé après-punk ou post-punk, c'est tellement vaste qu'on peut y trouver tout et son contraire, ne lui a pas échappé, si je vous cite les noms de Wire, de The Cure bien sûr, Joy Division ou même des Cocteau Twins, jusqu'à même la vague néo-psychédélique striée d'éclairs sonores propres à des groupes comme My Bloody Valentine, dont l'arrivée a été un des événements de la fin des années 80, eh bien, Steven Wilson, c'est évident, a tout écouté, en tout cas, tout a infusé en lui, ça s'entend naturellement dans sa production, comme en témoigne ce titre plus récent qui s'appelle People Who Eat Darkness, qui est extrait d'un album qui a publié en 2017 et qui s'appelle To the Bone.
We'll be right back. control and your kids became confused. Among the powder cakes with nothing left to lose. So now your chickens are coming home to roost.
People Who Eat Darkness, un des titres mémorables de l'album To The Bone que Steven Wilson a publié en 2017. Alors, je vous ai longuement parlé dans l'émission de mardi, d'avant-hier, de l'ambition propre à ce musicien qui vient de publier un album qui s'appelle The Overview et dont il souhaite, peut-être que c'est de sa part naïf, en tout cas c'est un projet un peu anachronique, qu'on l'écoute dans l'ordre, sans faire autre chose, comme quand on va voir un film au cinéma ou qu'on assiste à un spectacle au théâtre. Alors de mon point de vue, il a tout à fait raison, il a absolument raison de rappeler Steven Wilson que la musique, autrefois, au temps où la majorité du public n'avait d'autre choix que d'acheter des disques, eh bien pouvait être une expérience globale, complète, même absolue. Steven Wilson avait déjà envisagé son album précédent, The Harmony Codex, qui est paru en 2023, comme, je le cite, un voyage pour les oreilles. Et dans cet album, j'ai remarqué un très beau passage, on peut appeler ça un morceau, parce qu'on peut le découper, Rock Bottom, dans lequel on peut entendre la très belle voix de la chanteuse israélienne Ninette Taïeb.
Don't lose hope, don't lose hope, don't lose hope. Stay. new life, I'm coming home.
La voix de la chanteuse Ninette Taïeb, après quelques notes de guitare ondulantes, hein, typiques du style de Steven Wilson, voilà qui conclut le Very Good Trip de ce soir consacré à ce musicien, donc Steven Wilson. Je rappelle que l'émission spéciale que j'ai consacrée à son nouvel album The Overview est toujours disponible en podcast, bien sûr disponible sur les applications de Radio France. Alors, je vous parlais d'expériences globales liées à la musique. Eh bien, j'espère qu'on en vivra une ensemble. Demain, vendredi 21 mars, je le rappelle, au studio 104 de la Maison de la Radio, ouverture des portes à 18h15. L'événement aura lieu de 19h à 21h. On écoutera dans son intégralité l'album posthume de Nirvana, MTV Unplugged in New York, qui est paru il y a un peu plus de 30 ans déjà. Et bien sûr, je vous en dirai deux mots aussi. Et si vous pouvez venir, ce sera sympa. Voilà, il me reste à remercier Stéphane Ronxin qui a réalisé l'émission ce soir comme d'habitude. C'était Julien Dumont à la technique. Merci également à Guillaume Cohoner comme à Romain Couturier. Et tout de suite après les informations, bien sûr, ce sera le Côté Club de Laurent Goumard. Il recevra ce soir Albin de la Simone qui publie à la fois un roman et un album. Et puis il y aura aussi Mathieu Deslongchamps.